Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Les mots raturés. Je m'appelle Margot de Seine et vous pouvez me retrouver sur Instagram et sur YouTube pour en savoir plus sur l'écriture et l'entrepreneuriat. De plus, si vous souhaitez pouvoir lire les épisodes de podcast, c'est possible parce qu'ils sont maintenant disponibles sur mon site web, en particulier dans la catégorie blog. Vous pouvez également vous abonner à la newsletter pour pouvoir recevoir du contenu chaque mardi matin, motivant, inspirant, avec des méthodes d'organisation, des conseils pour mieux écrire votre roman et pour aussi vivre une meilleure vie d'auteur. Si vous souhaitez soutenir ce podcast, n'hésitez pas à lui laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast. Je lis tous vos commentaires chaque semaine. Bonne écoute! Hey! Ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de podcast. Cette semaine, je suis heureuse et fière d'accueillir une invitée qui est Cassandre Lambert, l'autrice du premier tome de la saga L'Antidote Mortel, qui vient nous parler au départ de son roman, qui va nous le pitcher, nous le raconter, mais surtout de son expérience en maison d'édition traditionnelle, puisqu'elle est éditée chez Didier Jeunesse. Elle va notamment nous parler de tout ce qui s'est passé, de sa relation avec son éditrice, de comment se passent les corrections quand on est en maison d'édition, de la façon dont on travaille pour construire la couverture d'un roman, pour choisir le bon titre, pour pouvoir le promouvoir malgré la situation sanitaire actuelle qui limite les dédicaces, qui empêche les salons et qui donc change totalement la manière de promouvoir un roman pour une maison d'édition. Bref, elle va nous parler de tout ça, de son expérience en ME, et je vous laisse avec l'interview. J'espère que ça va vous plaire et je vous retrouve à la fin. Hello Cassandre, je suis ravie de te retrouver pour ce nouvel épisode de podcast et je suis plus que ravie de t'accueillir dans cet épisode d'aujourd'hui. Bonjour.
Bonjour, bah merci beaucoup pour l'invitation, ça me fait super plaisir d'être là.
Ah bah écoute, le plaisir est partagé. Est-ce que tu veux bien commencer par te présenter pour tous les auditeurs qui ne te connaîtraient pas ?
Oui, bien sûr, je m'appelle Cassandre Lambert, j'ai 20 ans. Je suis étudiante en troisième année de droit et je suis aussi donc l'autrice de L'Antidote Mortel, qui est mon premier roman, publié chez Didier Jeunesse. Et à côté de ça, je fais beaucoup de sport, je lis énormément et je fais aussi un peu d'aquarelle, voilà, pour mes passions principales.
Oui, j'ai vu que tu étais très sportive d'ailleurs.
Oui.
Et est-ce que tu veux bien nous parler un petit peu de L'Antidote Mortel pour que on puisse savoir de quoi ça parle, comment ça t'est venu, l'idée d'écrire ce roman en particulier, et combien de temps tu as pris pour l'écrire ?
Alors, L'Antidote Mortel, l'idée, ça m'est venue pendant un trajet en voiture, un long trajet en voiture, où je m'ennuyais un peu, et du coup, j'écris depuis toute petite, et du coup, j'ai pris un petit peu le réflexe à chaque fois que je m'ennuie, je m'imagine des petites histoires dans ma tête, je me fais des films, et du coup, voilà, je réfléchissais, je rêvais un peu, et j'ai commencé à avoir l'idée d'un personnage en particulier, le personnage d'Eden, qui m'est apparu super clairement, et à partir de ce personnage, j'ai greffé toute l'intrigue autour, et voilà, c'est comme ça que c'est apparu. Et après, j'ai commencé à me dire, mais pourquoi ne pas en faire un roman, en fait ? Et voilà, et je me suis dit, en plus, la fantaisie, c'est quelque chose que j'ai jamais fait. Et c'est vraiment un univers où on est libre, on peut créer ses propres règles de magie, son propre univers, sa propre carte, tout ça. Donc ça m'intéressait vraiment d'écrire de la fantaisie. Et du coup, je me suis lancée tout de suite après. Et du coup, j'ai mis un an à l'écrire. À écrire le premier jet, et ensuite il y a eu 6 mois de correction, de relecture et de réécriture.
Oui, t'as été très rapide en fait, parce que je sais que tu es étudiante en droit, et comment ça se fait, comment tu as réussi à mener un peu toutes ces vies de front, parce que tu fais plein de choses en fait.
Oui, c'est sûr. Oui, je l'ai écrit plutôt rapidement. Après, j'ai commencé l'écriture, j'étais au lycée, donc j'avais pas encore le rythme d'étudiante en droit, donc déjà ça me laissait un peu plus de temps pour écrire. Et ensuite, comment j'accorde les deux, c'est sûr que je laisse un peu de côté les études en droit pour pouvoir écrire, pour pouvoir faire toutes mes passions à côté. J'essaye de partager mon temps, mais souvent l'écriture ça prend le dessus sur les études, c'est sûr.
Je comprends totalement. Oui, j'ai vu ça dans tes stories là récemment. Bizarrement, l'écriture, c'est plutôt une priorité, non?
Oui, clairement. La révision des partiels et correction en même temps, je choisis les corrections le plus souvent.
Je comprends vraiment pour le coup. Est-ce que tu pourrais nous pitcher vraiment l'antidote mortel pour nous vraiment nous parler de l'histoire en tant que telle et bah, pour nous mettre l'eau à la bouche, voilà, que ceux qui nous écoutent aient envie de l'acheter et de le lire?
Ok, il faut savoir que je suis très nulle pour pitcher mes romans. À chaque fois qu'on me demande un résumé, je suis là, je me décompose. Mais je vais faire un effort. L'Antidote mortel, c'est un roman de fantasy qui raconte l'histoire de trois personnages au destin lié. En premier, on a Whisper, qui est une princesse surprotégée par son papa, qui n'a jamais mis un pied en dehors du palais royal et dont la vie va changer du tout au tout quand elle va décider de fuir le palais royal pour échapper à un mariage forcé. En deuxième, on a Eden, qui est une orpheline, qui vit dans un orphelinat depuis la mort de ses parents et qui n'a qu'un seul objectif, c'est venger la mort de son papa, qui était un célèbre inventeur, qui a été assassiné par le roi. Et en troisième, on a Jadis, un paysan, qui a toujours été un petit peu marginalisé et moqué à cause d'étranges taches qui parcourent son corps. Il ne sait pas du tout d'où ces taches viennent. Mais... Je bégaye. Et lui aussi, sa vie va changer du tout au tout quand sa tante va lui confier en fait la mission d'apporter l'antidote qui est censé sauver la reine souffrante, puisque la reine est atteinte d'une terrible maladie. Personne ne sait d'où ça vient, pourquoi elle est malade. Mais le roi va lancer un appel au secours à la population. Il va autoriser quiconque... Enfin, il va autoriser tout... Comment dire ça? Il va autoriser n'importe qui, en fait, à venir au palais pour apporter un antidote à la reine. Et du coup, la tante de Jadis va lui donner l'antidote et va lui confier la mission d'aller au palais pour sauver la reine. Et donc, forcément, leurs routes vont se croiser et ils vont apprendre à se connaître. Il va y avoir des mystères, des secrets, beaucoup de rebondissements, beaucoup d'aventures. C'est vraiment un roman aventure dans le sens où l'action s'enchaîne, ils ont vraiment pas le temps de souffler. Et voilà, j'en dirai pas plus. Il faut lire les livres pour découvrir tout ça.
Ok, ben ça me paraît très très bien comme pitch, il n'y a pas de souci avec ça.
Merci.
Et j'ai vu rapidement en story Instagram que tous tes prénoms de personnages étaient liés un peu à leur histoire, à leur personnalité, tout ça.
Oui, c'est sûr. Bah, j'ai pris grand soin de donner. Enfin, j'ai beaucoup réfléchi avant de donner les prénoms à mes personnages parce que pour moi c'est super important pour pouvoir se rappeler d'eux, pour pouvoir bien les imaginer, les identifier. Et du coup, Whisper en anglais ça veut dire murmure et je trouve que ça correspond super bien à ce personnage qui est très fragile, très naïve. Personne ne sait qu'elle existe puisque son père cache en fait son existence pour la protéger. Du coup, même elle vit au palais royal, mais elle n'a pas le droit d'assister à des, enfin n'a pas le droit de voir d'autres personnes ou de parler à d'autres personnes. Et du coup, c'est un peu un fantôme dans sa propre maison. Et elle a aussi une santé très fragile. Du coup, elle peut pas vraiment faire d'activité sportive. Elle tombe malade très rapidement. Du coup, je trouve, enfin ça correspond vraiment bien à sa personnalité, à sa constitution fragile, tout ça. Ensuite, Jadis, j'ai vraiment flashé sur la sonorité du prénom parce que je trouve que c'est très doux. Enfin, ça sonne vraiment bien. Et aussi, c'est en référence à son intrigue puisqu'au final, toute son intrigue à Jadis tourne autour d'un événement qui s'est passé. C'est toujours en fonction d'un mystère qui s'est passé bien avant sa naissance ou juste pendant sa naissance. Du coup, c'est en référence à son passé tout simplement. Et je trouvais ça intéressant de mettre ça en avant. Et ensuite, Éden, là c'est plutôt ironique parce que Éden, ça veut dire le paradis, le délice, en hébreu ça veut dire délice. Alors que cette fille, au final, c'est tout le contraire puisque depuis la mort de ses parents, elle est vraiment brisée Et elle a vraiment un objectif horrible qui est d'assassiner quand même toute une famille. Donc c'est vraiment l'opposé de son prénom. Et je pense que je voulais marquer aussi la différence parce que au final Eden c'est un prénom qu'elle portait très bien quand elle vivait entourée de l'amour de ses parents. Tout ça, elle correspondait vraiment à Eden. Et maintenant c'est un petit peu l'inverse. C'est la face cachée du personnage. Enfin qui voilà, qui a vraiment un dessin super super sombre dans le premier tome.
Ok, ouais, franchement, je trouve ça ultra intéressant d'avoir relié comme ça les prénoms et la représentation du personnage comme ça, et même d'être un peu ironique, c'est super intéressant. Dis-moi, est-ce que tu as eu des inspirations au moment d'écrire ton roman, des univers qui t'ont inspiré, des mythes qui t'ont inspiré, pour qu'on comprenne un petit peu vraiment l'univers global de ton roman?
C'est sûr que je me suis je m'inspire au quotidien de beaucoup de choses, de séries, de films, de mes lectures forcément. Même je pense inconsciemment, enfin j'ai lu énormément de livres, du coup inconsciemment, les schémas qui m'ont vraiment plu dans les livres que j'ai lus, j'ai tendance à les reproduire au moment de l'écriture, que ce soit conscient ou inconscient. Et donc ça c'est une chose. Il y a aussi les Disney, parce que je suis une grande fan des dessins animés Disney. Il y a d'ailleurs pas mal de références dans l'Antidote Mortel. Il y a des références à La Belle et la Bête, à Star Wars, même aux jeux vidéo World of Warcraft. Bon, c'est un petit clin d'œil, je sais pas. Pour l'instant, personne n'a trouvé cette référence-là, mais il y en a une. Et j'essaye de mettre des petits clins d'œil comme ça à tout ce qui m'inspire en fait au quotidien.
C'est bien. Je pense qu'on le fait tous un peu naturellement. Donc, c'est intéressant de savoir quelles sont les références des autres finalement. Parce que ça en dit beaucoup en fait sur tout ce qu'a pu voir et écouter et lire l'auteur finalement pour arriver à créer lui-même son propre univers. Parce que forcément, on pioche tous des choses malgré nous, presque parfois, ou parfois avec évidence, là, comme par exemple avec ta référence à World of Warcraft. Et j'espère que quelqu'un trouvera, parce que sinon, c'est pas très drôle, c'est plus marrant quand les gens arrivent à trouver tes références.
C'est sûr, ouais, c'est sûr.
Et alors, j'ai vu du coup ton premier roman, L'Antidote Mortel, qui est sorti là très très récemment, et qui est publié chez Didier Jeunesse. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu pourquoi tu as choisi de passer par une maison d'édition traditionnelle et comment s'est fait tout ce choix pour toi dans le cas de l'Antidote Mortel?
Faut savoir que pour moi, en fait, mes écrits ne valaient vraiment rien. Pour moi, enfin, ce que j'écrivais, j'avais aucune confiance en ce que j'écrivais. Tout était nul. Et du coup, j'avais envie de publier. Enfin, pour moi, c'était un rêve de réussir à publier un livre. Mais j'avais pas la confiance. Je pense que pour être auteur auto-édité, faut avoir confiance en son texte, mine de rien. Faut y croire. Faut faire toutes les corrections. Faut faire la couverture, tout ça. Et moi, j'avais aucune notion. Je suis pas illustratrice, je suis pas graphiste, c'est super compliqué. Et j'avais besoin de l'approbation, en fait, je pense, d'une maison d'édition. J'avais besoin qu'un professionnel me dise, là, ce que tu fais, c'est bien, pour en fait croire moi-même en mon histoire. Ce qui est bête, parce qu'au final, mon histoire, elle vaut pas mieux en étant publiée en maison d'édition que si moi je l'avais autopubliée. Mais j'avais tellement pas confiance, en fait, que pour moi, l'autopublication, c'était même pas une option, en fait. Je me disais, il faut que quelqu'un me prenne par la main, me dise, oui, ce que t'as fait, c'est bien, bravo, on va publier. Et moi, j'avais pas la confiance. Après, peut-être que dans 5 ou 10 ans, si la confiance, elle serait peut-être venue après, et je me serais dit, là, je prends les choses en main, j'ai envie que mon roman soit publié, donc je vais le faire. Mais là, j'avais 18 ans, 19 ans, enfin, même maintenant, j'ai pas assez confiance en mes textes pour me lancer toute seule, quoi.
Je comprends. En fait, t'avais besoin un peu d'une validation là-dessus.
Ouais, c'est ça, j'avais besoin de l'approbation, ouais, clairement, clairement.
Ok, d'accord. Je vois totalement ce que tu veux dire. C'est vrai que c'est compliqué de se vendre parce que c'est vrai qu'en auto-édition, il faut se vendre si on n'est pas encore parfaitement à l'aise avec soi-même et en totale confiance avec le produit qu'on vend, parce que finalement, une fois qu'on est auto-édité, on vend un produit qui est son roman, qui c'est super, mais il faut avoir un peu de force là-dessus. C'est vrai que c'est admirable ce qu'ils font quand c'est comme ça.
C'est exactement ça. C'est pour ça que vraiment je suis en totale admiration pour ces auteurs auto-édité. Enfin, ils font tout seul de A à Z, même la communication. Enfin, vraiment, c'est fou.
Oui, c'est vrai que c'est fou. Et donc, du coup, toi, tu as choisi une maison d'édition traditionnelle, qui, pour rappel, n'est pas un mauvais choix. C'est un choix totalement différent, ça implique pas la même chose. Et je trouve que les deux choix sont très valides. Et comment tu as fait, du coup, toi, pour choisir ta maison d'édition? Et quelles ont été tes étapes pour envoyer ton roman?
Alors moi, pour choisir ma maison d'édition, j'ai essayé de voir vraiment les maisons qui publiaient le genre de mon roman. Et j'ai essayé de regarder un petit peu les catalogues, ce qui a déjà été publié dans les maisons. Et après, je me suis dit, c'est mon premier envoi, donc autant viser haut, entre guillemets, enfin, mes maisons préférées, même si elles sélectionnent pas beaucoup de manuscrits par an, que ça peut paraître un rêve, mais je me suis dit, je fais les grandes maisons, celles qui me tentent le plus, et après, on verra. Du coup, j'ai envoyé à 5-6 maisons d'édition. Pas tant que ça finalement, et j'ai vraiment sélectionné en fonction du catalogue. Est-ce que mon roman il peut correspondre à cette maison? Est-ce que il y a déjà des histoires qui ressemblent à mon livre qui ont été publiées? Parce que du coup il y a moyen que ça les intéresse moins s'ils ont déjà publié une histoire similaire, etc. Et j'ai regardé ça, et après je me suis lancée, et j'ai eu la réponse du coup 4 mois plus tard, donc une réponse positive de Didier Jeunesse.
Ça n'a pas été trop long, 4 mois?
C'était long, mais en même temps, j'y croyais tellement pas que je me suis dit, de toute façon, je vais jamais avoir de réponse, j'envoie et puis basta, quoi.
Ok, je comprends. Et du coup, pour l'envoi, tu avais fait quoi? Tu avais fait un synopsis complet? Tu avais fait une présentation de qui tu étais? Tu avais peut-être parlé de tes réseaux? Comment tu t'es présentée, toi, en tant qu'autrice, et comment tu as présenté ton roman?
J'ai pas parlé de mon compte Instagram. J'ai juste envoyé un synopsis, un résumé et une petite lettre, une mini biographie en fait, où je me présentais, je disais mon âge, mes passions, tout ça, et voilà, c'est tout. J'ai pas parlé de mes réseaux sociaux parce que à l'époque j'avais pas énormément d'abonnés, et pour moi c'était pas essentiel d'être sur les réseaux. Maintenant, je vois que ça sert à quelque chose d'avoir des gens qui nous suivent déjà, parce que forcément, pour la promotion, ça aide beaucoup. Mais à l'époque, je voyais pas du tout mon compte Instagram comme un outil de communication. J'étais juste en mode, je parle de mes lectures, j'aime bien, mais je pensais pas du tout que ça pourrait les intéresser, en fait.
D'accord. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, là, si tu devais republier un roman, peut-être que tu en parlerais. Si tu devais changer de maison d'édition pour un autre roman.
Oui, maintenant je vois que ça peut intéresser les maisons d'édition, mine de rien, donc c'est sûr que je le mentionnerai.
Ok, d'accord. Et par rapport à tout ça, on reste encore au moment du choix de maison d'édition. Est-ce que, en tant qu'étudiante en droit, ça a été plus facile pour toi de comprendre ton contrat d'édition, ou alors est-ce que tu es passée par quelqu'un qui t'a fait une relecture? Est-ce que tu as des conseils à donner là-dessus?
C'était pas franchement évident, même si je suis étudiante en droit. C'est vrai que j'ai un peu travaillé le droit des contrats, mais c'est un contrat spécifique, le contrat d'édition, donc c'est pas quelque chose qu'on étudie vraiment en détail. Donc c'était compliqué pour moi aussi. Je l'ai donné à ma maman pour qu'elle le lise et qu'elle me donne son avis. J'ai cherché sur internet aussi toutes les clauses qu'il pourrait y avoir, ce qu'il faut faire attention dans un contrat d'édition, est-ce qu'on peut le négocier, tout ça. J'ai regardé aussi, enfin j'ai écouté le podcast L'ICARES, donc qui donne pas mal de conseils là-dessus, donc ça m'a beaucoup aidée. Et voilà, après si j'avais la moindre question, j'aurais pu demander à mon éditrice, parce qu'elle est très ouverte là-dessus, donc elle aurait pu m'aiguiller sans souci, quoi. J'avais confiance dès le début dans ma maison d'édition, parce que Mélanie, mon éditrice, elle m'a vraiment mis à l'aise tout de suite. Du coup, je savais que je pouvais compter sur elle, et j'avais confiance au contrat. C'est peut-être pas ce qu'il faut dire, parce qu'il faut toujours le vérifier et voilà, mais je me disais c'est Didier Jeunesse, je pense pas qu'il va y avoir des clauses abusives, ce genre de choses, quoi.
Ouais, je vois. Et c'est super d'avoir cette relation de confiance avec ton éditrice. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Comment est-ce qu'elle t'a accompagnée dans les corrections, dans le choix du titre, dans la couverture? Comment elle t'accompagne au quotidien en tant qu'éditrice, justement?
Franchement, elle est super. C'est le moment où je fais de la pub pour ma maison d'édition. Mais non, franchement, bah dès le début, elle m'a mis à l'aise. En fait, j'ai rencontré toute l'équipe à Paris. Du coup, j'ai fait un petit séjour à Paris au début, bah pour qu'on puisse se parler à vive voix. Enfin, rien que mettre un visage sur un nom et sur une voix, ça aide vraiment à bah se sentir plus proche de la personne. Du coup, on s'est rencontrés très tôt. Et ensuite, bah on s'appelle souvent, on se donne des coups de fil, tout ça. Pour les corrections, bah on travaille sur Word, donc avec l'onglet révision. Donc elle fait une partie, donc par exemple 100 pages de correction, elle m'y envoie. Ensuite, j'accepte ou je refuse, je fais mes petites modifications à mon tour et je lui renvoie. C'est un peu un ping-pong comme ça. On fait pas mal de vagues de correction. Et donc pour le titre, c'est moi qui l'ai décidé et enfin c'est celui que j'avais noté en fait en envoyant le manuscrit et il n'a pas changé. Et pour le tome 2, bah c'est un peu différent parce que moi-même j'étais pas sûre de mon titre, j'avais des hésitations et du coup bah là elle m'a fait des propositions, on en a discuté et au final on a convenu d'un titre un peu ensemble quoi. Et la couverture, là aussi j'ai eu mon mot à dire, dans le sens où Mélanie, donc mon éditrice, elle m'a dit, bon voilà les illustrateurs avec qui on a l'habitude de travailler chez Didi Jeunesse. Elle m'a dit, voici leur site internet, donc regarde quel illustrateur, enfin quel style tu préfères, est-ce que t'aimes bien cette façon, enfin les couleurs, parce que chaque illustrateur ont finalement un style bien à eux. Du coup, bah, j'ai regardé ce qu'elle proposait. Et après, j'ai eu un petit coup de cœur sur Germain Barthélémy, donc, qui est l'illustrateur de L'Antidote Mortel. Et bah, après, du coup, on a choisi Germain. Et on faisait pareil, on faisait des ping-pong. Il envoyait des petites esquisses au début. Après, moi, je disais, ah, ça, j'aime pas trop. Cette police, c'est pas très lisible. Et après, Mélanie, elle disait, oui, et ça non plus, c'est pas très bien, machin. Et au fur et à mesure, en fait, en parlant, bah, ça s'est précisé et on a eu la couverture finale. Donc, c'était vraiment une collaboration du début à la fin. À chaque fois, elle m'envoyait la nouvelle couverture. Elle me disait, et celle-là, qu'est-ce que t'en penses? Et est-ce que t'aimes mieux celle-là ou celle d'avant? Enfin, vraiment, j'ai vraiment pu suivre le processus de A à Z, donc c'était trop bien.
Ouais, j'avoue, c'est vraiment super d'avoir une telle relation parce que j'ai eu des échos de relations avec des maisons d'édition où effectivement l'auteur avait un petit peu moins le choix et devait vraiment faire confiance à la maison. Mais là, c'est vraiment super d'avoir été totalement inclus dans tous les choix de ton roman. Je trouve ça génial et bravo à ton éditrice, à Didier Jeunesse. Si tous pouvaient être comme ça, ce serait parfait. Et surtout en.
Ouais, mais vraiment, c'était super.
Oui, c'est super. Franchement, c'est cool à entendre ce genre de témoignage. Bah, surtout un peu dans ce contexte, j'ai envie de dire, sanitaire qui fait qu'on est un peu tous stressés, tout ça. Se sentir rassuré et accompagné par sa maison d'édition, même dans des périodes aussi compliquées, je trouve ça super.
C'est sûr. Vraiment, j'aurais pas pu rêver mieux comme première expérience, hein.
Tu m'étonnes. J'espère que tous les auteurs ont une telle expérience en ME, aussi bonne en tout cas. Et justement, je me posais la question, vous avez décidé de sortir le roman en ce moment, donc en pleine crise sanitaire. Est-ce que ça pose pas de problème au niveau de la promotion? Parce que il n'y a pas de salon, il n'y a pas forcément de séance de dédicace comme on pourrait le faire habituellement. Est-ce que t'as pas eu des appréhensions? J'ai aussi vu que vous avez sorti des box, donc qu'est-ce qui s'est passé du coup pour cette promotion qui va forcément être différente de ce que tu aurais pu faire en temps normal?
C'est sûr, ça m'a fait peur. Je me suis dit, enfin, s'il y a un confinement, comment ça va se passer, machin. Mais au final, les librairies, elles sont considérées comme des commerces essentiels. Donc déjà, ça m'a vraiment rassurée dans le sens où, bon, on va quand même pouvoir aller en librairie. Moi, je vais pouvoir voir mon livre en librairie. Et déjà, rien que ça, j'étais déjà super contente. Et après, bah, c'est sûr, j'avais plusieurs séances de dédicaces programmées qui ont été repoussés. Au final, c'est pas annulé. Je sais que je les ferai dans les mois qui viennent. Donc, bon, j'essaye de voir le positif, c'est sûr. Et après, pour la promotion, bah franchement, encore une fois, c'est ouf, je fais la pub de ma maison d'édition, mais encore une fois, enfin, c'était fou parce que l'idée des box, bah c'était pas mon idée, c'était vraiment la maison d'édition qui enfin qui a tout fait de A à Z. Ils ont dit on veut marquer le coup pour ton livre, on y croit, donc on va tout faire pour que ça marche. Donc on va même faire une box avec plein de goodies, avec un poster, une fiole avec du sirop à la violette pour rappeler du coup l'antidote mortel, des bougies, des gâteaux avec le titre de mon roman dessus. Enfin franchement c'était fou. Et ouais, ils ont vraiment tout fait pour que ça marche. Ils ont essayé de faire des concours, tout ça. Donc la communication, même moi, j'étais choquée. Je me suis dit, mais c'est trop bien.
C'est super. J'ai vu que ça avait été envoyé à plein de monde sur Insta. Donc je me suis dit, waouh, ils ont vraiment mis le paquet. Encore une fois, là, il y a beaucoup de ME qui font un super boulot promotion, mais toutes les ME ne vont pas jusque-là pour promouvoir les romans. Et c'est vraiment admirable de voir tout le boulot qui a été fait pour le tien.
Ouais, c'est sûr, c'est sûr.
C'est trop mignon parce que je te vois, t'as vraiment t'as un visage de joie. On dirait vraiment, quand tu parles de ton roman, de ta ME, genre t'es illuminée, pas de la joie. Donc c'est super mignon à regarder. Donc désolée pour tous ceux qui écouteront le podcast qui pourront pas voir ça. Mais franchement, ça fait plaisir de voir quelqu'un si en phase avec son projet et avec les personnes qui l'ont accompagné dans son projet. Ça fait plaisir.
Bah oui, vraiment, en même temps, je peux que être contente quand je vois tout ce qui se passe et comment mon livre a été accueilli. Enfin, ouais, c'est ouf.
Ouais, et justement, là, tout à l'heure, tu me parlais de ton tome 2. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Est-ce que vous avez décidé de certaines deadlines avec Didier Jeunesse? Est-ce qu'ils te guident dans ton écriture? Ou alors, ils te disent, ok, genre, ça doit être prêt pour tel mois. Et jusque-là, nous, on te laisse tranquille, t'écris et on voit après. Et comment ça se passe?
Ils m'ont pas du tout guidée dans l'écriture du tome 2. Faut savoir que quand j'ai envoyé le tome 1, j'avais déjà écrit la moitié du tome 2 à peu près. Et du coup, bah, on était vachement pris dans la promotion et la sortie du tome 1. Donc, elle m'a juste dit, on en reparle tel mois et on verra où t'en es dans l'écriture. Et du coup moi bah c'était super stressant enfin je me suis dit oh là là le tome 1 il est publié donc le 2 faut qu'il soit aussi bien. Donc franchement je me suis mis une pression de malade. Donc je me suis dit OK, il faut que je l'écrive plutôt rapidement parce que sinon je vais me prendre la tête et je vais trop réfléchir et je vais jamais réussir à l'écrire. Du coup, j'ai essayé de me dire bon, fais comme si il n'était pas publié aussi et juste écris ton roman comme le tome 1 quoi. Et c'est vrai que c'était super stressant, d'autant plus que j'ai signé le contrat pour le tome 2, alors que en fait, elle ne l'avait même pas lu, enfin personne ne l'avait lu. J'ai juste envoyé un synopsis plus ou moins détaillé, parce que moi-même, la fin, c'était vague, je savais pas trop comment j'allais clôturer ça. Donc j'ai envoyé un synopsis, elle m'a dit « Bon, t'as l'air de savoir ce que tu fais, vas-y, écris-le, on en reparle, machin. » Donc je l'ai écrit. Et ensuite, bah là, je lui ai envoyé il n'y a pas si longtemps que ça, du coup, il y a un mois à peu près. Et donc, pour l'écriture, je suis totalement libre. Et après, c'est pour les corrections, bah là, forcément, elle est, enfin, elle va venir le corriger. Donc, forcément, il va y avoir des modifications. Et pour les deadlines, j'ai des deadlines. En fait, elle m'a même pas imposé de deadline. C'est moi qui lui ai dit, est-ce que tu peux me mettre une deadline, s'il te plaît, parce que j'arrive mieux à m'organiser et j'arrive mieux à me, ouais, voilà, à m'organiser, à me motiver en fait. Du coup, je lui ai dit, donne-moi une deadline, on verra si j'y arrive ou pas, mais donne-moi quelque chose. Et du coup, là, elle m'a dit, bah, ce serait bien pour fin mai que tu finisses la première salve de correction, parce qu'après, il va y avoir plusieurs rounds de correction. Du coup, voilà, donc il y a des deadlines, mais c'est un peu moi qui les demande.
Je comprends totalement, les deadlines, ça marche du feu de Dieu. du coup, est-ce que c'est elle qui est ta première bêta lectrice? Ou alors, t'as quand même fait plusieurs réécritures entre-temps, donc t'as d'autres bêta lecteurs, bêta lectrices qui lisent ton roman, qui lisent ton tome 2 et qui t'aident en fait dans la réécriture?
J'ai pas vraiment de bêta lecteur. Enfin, j'ai ma maman qui a lu le tome 2 avant que je l'envoie à Mélanie, à mon éditrice. Mais bah c'est un peu tout. Sinon j'ai mon frère et j'ai mon oncle aussi qui lisent le manuscrit. Mais par exemple, ils ont fini de le lire alors que je l'avais déjà envoyé à mon éditrice. Du coup, bah, ils me font des retours, mais je suis là, j'ai déjà envoyé le manuscrit, c'est trop tard en fait. Fallait le lire plus vite. Donc, j'ai pas vraiment de bêta lecteur au final, à part ma maman qui essaye de le lire plutôt rapidement et voilà. Mais sinon, enfin, je travaille un peu en solo là-dessus. J'ai pas vraiment de retour avant ma maison d'édition.
Ok, c'est super intéressant. D'ailleurs, j'ai vu que ta maman, elle te soutenait beaucoup dans toute cette aventure. C'est elle qui croit le plus en toi, non?
Oui, c'est sûr. Bah, c'est elle qui m'a incité à envoyer mon manuscrit. Parce que moi, j'avais déjà envoyé un manuscrit, donc quand j'avais 15 ans, j'avais écrit un livre et que j'avais envoyé à des maisons d'édition et j'ai eu que des refus. Du coup, j'avais un peu perdu l'espoir. Je me disais, bon, je vais jamais être publiée, voilà. Et ma mère, elle m'a dit, mais non, vas-y, tente le coup, celui-là, j'y crois, il a du potentiel, vas-y. Donc, elle était vraiment à côté de moi. Elle m'a aidée à sélectionner un peu les maisons et, enfin, elle m'a motivée. Donc, ouais, c'est. Elle a une grande part de responsabilité dans mon envoi de manuscrits.
Ça, c'est vraiment super. Et c'est vrai qu'il faut le rappeler que bah, on n'est pas forcément publié dès la fin, enfin, dès son premier roman, et qu'on peut recevoir des refus, et que c'est pas pour autant qu'on n'est jamais publié après.
Bah c'est clair, là mes lettres de refus, je les ai gardées très précieusement et je les regarde et je suis là. Tout le chemin que j'ai parcouru.
C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et bah, justement, dans tout ce chemin, dans toute cette aventure, toi, c'est quoi là, actuellement? Ouais, à cet instant T, ton plus beau souvenir de tout ce que tu viens de vivre par rapport à ton roman et à ton écriture.
Mon plus beau souvenir, je crois, c'est quand j'ai reçu mes exemplaires auteurs de l'Antidote Mortel et que bah j'ai pu en fait mettre mon propre livre dans ma bibliothèque. Enfin, c'était juste fou parce que ma bibliothèque, c'est vraiment ce qui compte le plus pour moi en termes de biens matériels, entre guillemets. Vraiment, je la bichonne, j'en prends soin, tout ça, je la regarde tous les jours, je suis là, je suis trop contente. Et du coup, le fait de pouvoir glisser mon livre à côté de tous ces livres que j'ai tellement aimés, qui m'ont façonné, enfin, les livres, ça a vraiment une place hyper importante dans ma vie. Donc voir mon livre à côté des autres versions papier, pouvoir le toucher, le renifler, tout ça, c'était vraiment ouf. Et là, bah, il est dans ma bibliothèque et à chaque fois, je le regarde et je suis toujours aussi contente. Donc ça, c'est vraiment le plus beau souvenir.
Je valide ce souvenir.
Bah oui, toi, tu connais aussi.
Du coup, là, maintenant qu'on a fait ton plus beau souvenir à l'instant T, ce serait quoi maintenant ton prochain objectif en tant qu'autrice pour les mois ou les années à venir?
J'ai beaucoup de projets, mais en même temps pas mal de stress parce que je me dis, j'ai eu un roman publié, enfin du coup bientôt deux, et je me dis est-ce que ce que je vais écrire, ça va être aussi bon que ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, donc enfin c'est énormément de pression. Mais là, j'aimerais bien déjà bah, réussir à boucler les corrections du tome 2 pour qu'il sorte en septembre, parce qu'il est prévu le 22 septembre, et voilà, que tout se passe bien de ce niveau-là. Après, j'aimerais bien aussi écrire un spin-off sur un des personnages de l'Antidote Mortel que j'aime beaucoup. Et après, j'ai plein d'idées de romans à côté de ça. J'ai envie d'écrire une dystopie matriarcale, j'ai envie d'écrire une romance contemporaine. Enfin, j'ai pas mal d'idées comme ça, mais il faut que j'arrive à me cadrer parce que je peux pas tout faire en même temps, donc il faut que je m'organise. Et aussi, du coup, les poèmes, parce que j'ai écrit deux recueils de poésie, donc il y a à peu près 100 poèmes dans chaque recueil. Et bah ça, c'est pareil, j'avais zéro confiance en mes poèmes. Et j'ai participé à un concours de poésie il y a 3-4 mois. C'est le concours Paul Verlaine. Et du coup, j'ai été lauréate, j'ai appris il y a une semaine, j'ai été lauréate de ce concours pour un des romans que j'ai, enfin, un des poèmes, pardon, que j'avais envoyé. Et du coup, ça m'a vraiment donné confiance et je me suis dit, encore une fois, j'avais besoin de l'approbation, malheureusement. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas faire quelque chose avec ces poèmes? Pourquoi pas, Didier Jeunesse ne publie pas de poésie, mais, enfin, pourquoi pas envoyer à quelqu'un d'autre ou, voilà, Donc je garde ça dans un coin de ma tête et je verrai après ce qui se passe.
Ok, d'accord. Et ça paraît très bien. Et oui, j'avais vu pour ton concours de poésie, félicitations. Franchement, c'est super
Merci
de,
beaucoup.
bah, de réussir ça, d'être lauréat d'un concours. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à écrire de la poésie. C'est vraiment trop cool, la poésie. Et je trouve que c'est pas encore assez valorisé.
Je confirme. Je confirme.
Et par rapport à tout ce que tu fais au niveau de tes études et de ton métier d'autrice, Si tu pouvais choisir, est-ce que tu continuerais dans le droit en tant que bah, pour faire ton métier, pour faire ton avenir professionnel, ou tu pourrais devenir autrice à plein temps?
J'aimerais devenir autrice à plein temps. Pour moi, c'est vraiment le rêve. Après, bah, enfin, c'est compliqué de gagner sa vie avec ses écrits. Je pense qu'il faut, enfin, faut être vachement prolifique. Faut écrire beaucoup de romans, ou alors faut qu'il y ait un roman qui vraiment marche très très bien. Donc, pour l'instant, c'est pas possible. Donc, je vais continuer dans le droit. Je vais essayer de d'être prise en master déjà. Ce serait pas mal. Et après, bah, on verra ce que l'avenir me réserve. Mais c'est sûr que vivre de sa plume, c'est un rêve. Donc, c'est sûr que j'aimerais beaucoup.
Je comprends. Je crois que je dis souvent je comprends aujourd'hui juste parce que genre vraiment je suis en phase avec ce que tu dis donc
Bah, tant mieux,
c'est
on se
vraiment
comprend,
sympa.
voilà.
Oui. Écoute, alors moi j'en ai terminé avec mes questions, j'en ai plus qu'une seule et je pense que c'est la plus importante. Si tu n'avais que trois conseils à donner à un jeune auteur de 15, 16 ans, 17 ans, peu importe, ou même un jeune auteur qui vient, peu importe son âge, mais qui vient de démarrer, qui souhaite se faire publier en maison d'édition traditionnelle. Qu'est-ce que ce serait comme conseil?
Déjà, je lui conseillerais de vraiment bien cibler sa maison d'édition, de faire vraiment attention au genre de la maison d'édition. Parce que c'est vrai, quand on débute, on a tendance à se dire, bon, j'envoie un maximum de maisons, comme ça j'aurais une réponse peut-être. Mais je trouve c'est mieux d'avoir la qualité que la quantité, où vraiment les maisons, enfin, tu les sélectionnes avec soin. Et si tu joins une lettre d'intention, si tu joins un synopsis qui est vraiment, bah, où t'as pris du temps à faire ton synopsis, que tu vois qu'il est vraiment abouti, avec une petite biographie, je pense que ça peut faire vraiment la différence. Et ensuite, bah, je conseillerais surtout d'être patient, parce que c'est très long, les délais, c'est, enfin, pour envoyer son roman, il faut faire des corrections, il faut faire énormément de relectures, énormément de réécritures, donc c'est super long. Et bah, pour l'envoyer, les délais de réponse sont hyper longs. Moi, ça a pris 4 mois, mais ça aurait pu prendre beaucoup plus longtemps, hein. Par exemple, enfin, je connais des personnes à Gallimard, ça prend 1 an pour avoir une réponse. Donc, il faut être vraiment super, super patient et persévérant, dans le sens où si c'est pas ce manuscrit qui sera publié, enfin, si c'est pas ce manuscrit qui est publié, ce sera le prochain. Et faut, tant que la passion est là, en fait, il faut continuer d'écrire. Et voilà, à force de persévérer, il y aura forcément un manuscrit qui tapera dans l'œil d'une maison d'édition.
Bah écoute, merci beaucoup. Merci d'avoir apporté toute ta bonne humeur et toute ton expérience en maison d'édition. Parce que tu es la première là qui me vient me parler de sa maison d'édition et je trouve ça vraiment intéressant d'écouter les points de vue de tout le monde et les expériences de tout le monde. Donc merci à beaucoup pour ça.
Bah, merci à toi, j'écoute ton podcast, vraiment j'adore ce que tu fais. Donc ça m'a fait super plaisir quand tu m'as contacté pour intervenir dans un de tes podcasts, vraiment merci beaucoup.
Je crois que le plaisir était vraiment partagé pour le coup. Donc ça fait plaisir. Hey, encore merci à Cassandre pour son intervention. J'ai trouvé ça vraiment super de découvrir l'envers du décor d'un auteur ou d'une autrice édité en maison d'édition traditionnelle. Et c'était une belle découverte pour moi de voir comment fonctionnait Didier Jeunesse notamment, mais la plupart des maisons d'édition traditionnelles de façon générale. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas, si votre plateforme d'écoute vous le permet, à laisser une note et un commentaire ou à m'envoyer un petit message sur Instagram pour me dire que vous avez apprécié, que vous l'avez écouté. N'hésitez pas non plus à aller découvrir le compte Instagram et le roman de Cassandre Lambert. Je vous laisse tout ça dans les notes d'épisode du podcast ou dans la description de l'IGTV puisque à partir de maintenant, voilà, les épisodes sont également sur IGTV pour tous ceux qui ne veulent pas écouter le podcast sur des plateformes d'écoute. Je fais le test pour voir ce que ça donne. En attendant, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle interview qui va vraiment, vraiment, vraiment être intéressante. J'ai tellement hâte de vous la présenter. Sur ce, écrivez bien, prenez soin de vous et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de podcast. C'était Margot et je vous souhaite une bonne journée.